Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est un personnage de légende, rapide, infatigable, toujours au galop. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Alexis le Trotteur, le cheval du Nord.
Je pense que le côté extraordinaire, c'est que le bonhomme a couru 75 000 par semaine en moyenne pendant 30 ans. Il en est arrivé à des choses extraordinaires, comme par exemple se prendre avec un cheval de course sur un demi-mille, se prendre avec n'importe quel cheval attelé avec une carriole ou soit un petit selkier dans le rang, ouais. Quelque chose comme ça, avant ou après la messe. C'est une chose qui lui est arrivée très souvent. Se prendre avec des animaux dans les champs, avec des poulains, avec des cochons, avec des moutons, des chiens.
Oui, mais est-ce qu'il gagnait des fois?
Très souvent, si ce n'est tout le temps.
Mythe ou légende, les exploits d'Alexis Lapointe, alias Alexis le Trotteur, tels que racontés par Jean-Claude Larouche sur le plateau de Jean-Pierre Coallier en janvier 1972. Figure héroïque du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'imagerie populaire en a fait un personnage surréel, sorte de conjugaison entre le cheval et l'humain. Coureur infatigable, Alexis le Trotteur parcourt de longues distances sans jamais s'essouffler. Rapide comme l'éclair, il se mesure régulièrement aux chevaux, aux chiens, aux voitures et aux trains. Ironie du sort, il meurt justement frappé par un train sans le sou à l'âge de 64 ans. Coureur, athlète, homme spectacle, Alexis est sans doute un peu tout ça à la fois, personnage fantasque dont la légende va s'imposer plus tard dans l'imagerie populaire.
Il était né comme ça. Trotter, lui, c'est... Comment de fois je le voyais dans la terre, là, les chemins de printemps, il n'y avait pas d'asphalte. Les roulières, hein, le chemin, ça calait, là. Puis Alexis le Trotteur, le petit fouette, puis il se fouettait. Oh, j'ai vu beaucoup tous les fois. Tous les fois qu'il descendait, il descendait à pied. Quand il aperçut, quand le bateau, là, qui arrivait avant le bateau, il a parti de Québec avec le Carolina, qui est arrivé à Pointe-au-Pic avant le Carolina. Bien, on l'attendait pour une veillée, il arrivait 10 heures. Il dit, mademoiselle, il dit, j'arrive tard. Il m'appelait toujours mademoiselle, hein. La maîtresse de cours, c'est mademoiselle. Et il dit, t'arrives bien tard. Il dit, j'arrive tard et je suis partie. Je voulais lui montrer que j'arriverais avant le bateau. Il dit, je suis partie de Québec quand le bateau, puis il dit, j'arrive avant. Je suis arrivée avant. Puis il est arrivé, il était bien 10 heures, puis il a monté à pied. De la Pointe-au-Pic à l'école. On l'attendait, il y avait une grosse veillée.
De Québec à Pointe-au-Pic à la Malbaie, au pas de course, 137 km, arrivé avant le bateau. Fait réel ou imaginaire, dans tous les cas, c'était raconté par Mme Onésime Lessard, née Albertine Riverain. Ancienne maîtresse d'école dans les années 1900, c'était à notre radio en 1974. Ah, pour parler de ce personnage de légende, mon invité Serge Gauthier, il est président de la Société d'histoire de Charlevoix, également chercheur au Centre de recherche sur l'histoire et le patrimoine de Charlevoix. Bonjour.
Bonjour.
Je dis personnage de légende, hein, parce que c'est ça Alexis le Trotteur. Alexis Lapointe a existé. Il avait sans doute des qualités athlétiques exceptionnelles, mais sa vie en soi, elle est assez banale, non?
Mais il y a l'homme et il y a la légende. Il faut d'abord regarder l'homme, évidemment. Donc, il est né à la Malbaie en 1860. Et donc, c'était tout ce qu'il y avait d'ordinaire. Sa famille, cependant, était une famille assez importante de la région. Mais l'homme, en tant que tel, aurait été bien mal reçu, surtout qu'au niveau de l'intelligence, il n'était pas particulièrement reconnu pour son intelligence. Et autour de ça, il a trouvé le moyen exceptionnel de se faire remarquer en faisant le cheval. Vous savez, le cheval, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus exceptionnel, de plus noble. Tout le monde voulait avoir le plus beau, le plus rapide. Alors, Alexis, en devenant le cheval, en jouant le cheval, il a attiré l'attention de tout le monde.
Oui. Et c'est plus tard, après sa mort, là, qu'il va atteindre le statut de légende. Pas de son vivant.
De son vivant, il est remarqué beaucoup parce qu'on dit, quel est ce fou-là? Quel est ce personnage-là? Et effectivement, il se fouettait, il imitait le cheval, il hennissait. Donc, imaginez la famille, quand même, son grand-père est Alexis Picoté Tremblay, qui a fondé la Société des 21, qui est allé vers le Saguenay. Et vous avez quelqu'un dans votre famille, un énergumène, en quelque sorte, qui devient un cheval. Alors donc, il n'était pas très bien vu par sa famille. Et puis, dans les gens, bon, on en riait, on s'en moquait le plus souvent.
Donc, il y a un côté fou du village, là, si je vous comprends bien. chez ce personnage-là.
Un fou du village, mais en même temps tragique. Dans le fond, il est devenu comme prisonnier de son personnage de cheval. Et on lui a demandé de faire plein de choses. Il les a faites et il est devenu donc... mais par contre, derrière l'homme, bon, qui ne s'est pas marié, qui est demeuré pauvre, qui n'avait pas de métier, qui n'a pas été éduqué. Donc, ça aussi, c'est un petit côté un peu moins drôle. Et à la fin de sa vie, ben, vous savez, il est mort quand même à 64 ans. Il ne courait plus. On a un témoignage qui dit que c'était un moyen cheval, puis même un cheval un peu faible.
Oui, ben on imagine bien, 64 ans et surtout voilà. à l'époque aussi. Ben oui, il faut se rapporter à l'époque. Donc, vous dites, un comportement un peu étrange, une vie tragique hein, aussi. Encore une fois, Albertine Riverain, qui l'a bien connue à la Malbaie, elle en parlait à notre micro, l'émission Au temps de la galette, on écoute encore une fois, février 1974.
Pour revenir à Alexis le Trotteur, là,
oui.
C'était-il un homme intelligent ou bien c'était...
Pour dire qu'il conversait, il n'était pas un grand parleur. Seulement, tu vois, qu'il aimait ça, la course... monter à pied, puis quand tu descendais, là, que je le voyais passer devant ma classe, il y avait un petit tor, un petit fouet, puis il se fouettait. Puis il marchait le pas d'un cheval. Il se fouettait. Puis il descendait toujours à pied au bateau. Toujours, jamais. Pour travailler beaucoup, c'était pas être travaillant beaucoup. Ça jouait pas aux cartes non plus pour s'amuser. Ça dansait très peu. Parce que les filles n'allaient pas le chercher. Il acceptait pas, des fois, les filles. Fait que lui, hein, ça le gênait, elle ne demandait pas. Moi, pour lui donner une chance, j'allais danser avec. Je le demandais à danser. Oh, il était poli, mais seulement, il n'y avait pas de conversation. Puis quand il parlait, il n'y avait pas la bouche taillée comme nous autres. Hein. C'était prononcé. C'était pas...
Il était pas beau.
Il était pas laid non plus. Hein. C'était pas immense. Puis il parlait toujours, comme tu dis, un peu en branlant, là.
Témoignage intéressant. On dit, bon, oui, timide avec les femmes, pas beaucoup de conversations, pas laid, mais pas particulièrement beau, donc pas de qualité physique exceptionnelle, comportement étrange. Comment il était perçu par la population à ce moment-là?
Ben, je pense qu'il apportait une certaine joie dans les... On dit un homme spectacle, oui. Parce qu'il arrivait, il jouait de l'harmonica, il dansait, il faisait ses exploits, évidemment, surtout contre les chevaux, particulièrement. Donc, c'était spectaculaire. À l'époque, on n'avait pas énormément de loisirs dans nos campagnes. Alors donc, quand vous voyez arriver dans votre... Il était nomade, donc il se déplaçait d'un endroit à l'autre. C'était une joie pour les gens de recevoir Alexis. Mais d'autre part, comme la dame le présente bien, on ne va pas nécessairement... vouloir le fréquenter constamment, là, puis dire, ben là, on l'invite pour danser, mais je veux dire, pas plus que ça. C'était quand même quelqu'un... Il y avait des gens qui pouvaient même aller jusqu'à à le trouver très, très bizarre, là. Oui. Donc, c'était pas évident.
Parlons de ses exploits. D'ailleurs, comment il se met à courir? Pourquoi il se met à courir comme ça?
Bon, autrefois, il y avait, au 19e siècle particulièrement, les gens faisaient courir les chevaux. Après la messe, il y avait toujours des courses en tranquillement... Alexis, donc, s'est mis à vouloir égaler le cheval, courir contre les chevaux. Et ça a été spectaculaire. Et les gens ont remarqué ça. Et donc, c'est devenu comme une attraction de voir Alexis courir contre les chevaux. Mais pour ses exploits en général, comme j'entends la dame, là, et je souris un peu, parce que la course contre le bateau, par exemple, moi, j'ai des versions. Il part de Pointe-au-Pic pour aller vers Chicoutimi. Et d'autres, c'est Québec vers Pointe-au-Pic.
Vers Pointe-au-Pic,
et,
oui.
Donc, on a ici, puis les routes, vous savez, à l'époque, là, c'était très peu de choses, et on était dans le bois, on n'avait pas... Elle décrit, d'ailleurs, les chemins étaient souvent très, très mauvais, il n'y en avait pas. Et les bateaux, ben ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vérifiée. Moi, j'ai tenté de le vérifier. Combien de temps ils prenaient, mettons, pour partir de la Malbaie jusqu'à la Chicoutimi? Ils pouvaient faire des arrêts, pouvaient faire des... Ils n'allaient pas très vite. Il y en a qui prenaient 3 jours des bateaux pour se rendre de Pointe-au-Pic à Chicoutimi. Sur quel navire il y a-t-il? Des bateaux de croisière, une goélette? Bon, on sait rien de ça. Et donc, il y en a qui vont dire, ben, comme elle serait née en 1900 ou elle aurait vécu en 1900. Bon, on dit qu'il était très jeune quand il a fait cette course-là. Donc, la dame en question, en 1875, je ne sais pas quel âge elle avait. Oui. Mais mettons qu'Alexis avait 20 ans au moment de la course des bateaux. Bon, ça le met en 1884. Alors, mais les gens le racontent comme s'ils l'avaient vraiment vu. Mais au fond, ce sont des légendes. Et ça a continué.
Parce qu'on n'a pas de traces de ça. Il n'y a pas de temps homologué, là, de chronométrie.
Non, c'était pas dans l'esprit du temps. Oui. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de chronomètre. D'ailleurs, l'idée d'Alexis comme athlète, c'est venu plus tard avec Jean-Claude Larouche dans les événements qu'on pourra parler. Mais avant, on ne parlait pas d'un athlète. Et disons, la course à pied, c'est pas quelque chose qui était pratiqué. Une personne qui courait comme lui passait pour un fou un peu. Donc, les sports, c'était pas dans le quotidien des gens non plus. Donc, on n'avait pas idée d'une performance, pas du tout.
Oui.
C'était vraiment un amusement.
Mais c'est la question que j'allais vous poser, puis en lisant sur lui, je me posais la question, mais pourquoi il n'a jamais fait de concours? Les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, 1896, il était déjà un petit peu vieux, mais il y avait quand même des courses, des marathons, des concours aux États-Unis, ailleurs au Canada. Pourquoi il n'a jamais fait ça?
Ben, je pense que ça aurait été tout simplement impossible à mesurer, et puis c'était pas l'objectif. Son objectif n'était pas de dépasser ou d'être un sportif. Et à quelques faits où il aurait couru aux États-Unis, mais ça demeure légendaire et on n'a pas de preuves de ça formellement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on aurait fait à l'époque, comme je l'ai déjà dit. C'est pas quelque chose de...
C'est pas dans l'esprit du temps. Et surtout pas
du tout. Les Olympiques, les gens ne connaissaient pas ça. Oh, l'exploit sportif. D'ailleurs, on ne voyait pas, dans sa première période, on ne voyait pas Alexis comme un sportif. On voyait Alexis comme un fantaisiste, un homme spectacle, un homme qui apportait du plaisir, mais pas comme un athlète.
Oui. D'ailleurs, bon, ces exploits ne vont pas le rendre particulièrement riche, hein, au contraire. Comment il gagne sa vie? Vous disiez, bon, c'est un nomade, il se promène. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il pratique quoi, 36 métiers?
36 métiers, mais surtout un en particulier, il fabriquait des fours à pain. Donc, à l'époque, on avait des fours à pain extérieurs qui étaient faits en glaise. Et Alexis, pour se faire remarquer, piétinait la glaise en dansant. Donc, évidemment, c'était tout un spectacle. Et les gens l'engageaient d'une maison à l'autre, sauf que cependant, on dit qu'il restait longtemps. Donc, après une dizaine de jours, parfois, il était encore là. Donc,
il collait.
Les gens disaient, dépêche-toi de finir ton four, là.
Oui.
il en aurait fait un très grand nombre à travers Charlevoix, Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui lui permettait de recevoir surtout une invitation et manger et rester là et... Pas tellement d'argent, finalement, parce qu'il y avait très, très peu d'argent, Alexis.
Oui. Donc, on lui offrait le gîte en échange, donc, de ses services. Donc, fabricant de fours à pain dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, musicien, amuseur public, coureur, oui, vous l'avez dit, toujours prêt, en fait, à relever des défis. Hein. Il y a ce côté amuseur public. C'est comme ça qu'on le décrit. Ironie du sort, il va mourir en 1924, frappé justement par un train alors qu'il travaille comme ouvrier dans la région d'Alma. Et ses funérailles sont anonymes à ce moment-là. Donc, on est loin là, de la légende qu'il est devenu.
Très loin, effectivement. Et disons que pour faire un constat, c'est que l'accident avec le train, il n'a jamais couru devant le train. Là. C'est vraiment un accident bête. Il était quand même pas très jeune à ce moment-là. Et déjà, à ce moment-là, il commençait à s'inquiéter de son avenir. On a des témoignages où il dit « je vais peut-être me suicider » ou « j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? » Vous savez, il n'y avait pas de résidence pour les personnes âgées. Non? Et lui n'avait plus de famille beaucoup. Il avait toujours sa maison à Clermont, il pouvait revenir là, à la maison familiale. Mais il reste qu'il s'inquiétait beaucoup. Donc, un accident tragique, bête, mais pas du tout spectaculaire. Et il arrive dans la région et il est transporté d'ailleurs par la compagnie. Et il est enterré dans la fosse commune. Donc, il n'y a pas de pierre tombale à l'effigie d'Alexis le Trotteur. Maintenant, il y en a une, mais à l'époque, il n'y en a pas. Et donc, ça passe inaperçu. On a pu trouver peut-être un article ou deux qui signalait que ce phénomène-là était décédé, mais sans plus. Et on ne parle pas à ce moment-là, à sa mort, du tout du fait que c'est une course contre le train.
Oui. Alors, comment il va devenir ce personnage légendaire, là? Qui va s'emparer du personnage Alexis le Trotteur?
Le plus grand pour faire connaître, en fait, il y en a deux, mais le premier est vraiment Marius Barbeau, ethnologue, folkloriste, qui, lui, à l'époque, écrivait de nombreux livres, entre autres des livres sur l'histoire du Saguenay. Et il a fait un livre qui s'appelait « Kingdom of Saguenay » en anglais, destiné particulièrement à la croisière des bateaux du Saguenay. Il faisait une croisière avec des paquebots là, sur le Saguenay, et c'était des touristes anglophones. Et il a trouvé que le personnage d'Alexis était très intéressant pour montrer un peu le pittoresque de la région. Et donc, il en a fait. Et là, il a créé l'idée qu'il avait couru devant, devant le terrain. Et donc ça... et Marius Barbeau était très prolifique. C'est-à-dire qu'il faisait des petits articles, il republiait le même article de nombreuses fois. Et ensuite, les gens reprenaient ce que Barbeau avait écrit dans d'autres articles. Alors donc, au niveau des journaux, Alexis est devenu très connu. Sa légende aussi, et même beaucoup plus forte qu'elle l'était auparavant.
Oui. Avec le côté, vous l'avez dit, pittoresque. Hein? Mais là, fait curieux, en 1966, la dépouille d'Alexis Lapointe sera exhumée par un jeune étudiant à l'époque à l'Université d'Ottawa, Jean-Claude Larouche, dont on a entendu les propos un petit peu plus tôt. Pourquoi il entreprend une telle démarche en 1966?
Ça, il faudrait peut-être lui demander. Mais il reste que la question est posée. Dans le fond, comment est-ce qu'on peut scientifiquement présenter une légende? Les faits légendaires, ça ne se mesure pas de manière scientifique. Et ça, son hypothèse de base est toujours demeurée curieuse. Et pour le reste, ben, il fait une exhumation, il extrait les os. Et vous savez, j'ai dit la fosse commune. Donc, par-dessus Alexis, il y avait plusieurs autres personnes. Alors, imaginez, vous faites ça à la vitesse et ensuite, vous extrayez. Vous avez les os et vous dites, ben, ces os-là prouvent telle ou telle chose. C'est bien difficile à prouver. Et je souligne que Jean-Claude Larouche, c'était un étudiant au baccalauréat.
Oui.
Et
oui.
il a fait un mémoire de licence, comme on appelait à l'époque, là, en éducation physique. Et aucun professeur universitaire ne parrainait, parce que ce n'était pas une maîtrise, ce n'était pas un doctorat. Donc, le scientifique était entre guillemets, là, vraiment. Là. Et moi, je demeure toujours étonné qu'on puisse avoir essayé de dire, ne serait-ce que pour un coup publicitaire, peut-être. Et d'ailleurs, ça a été le cas, parce que le livre a bien marché.
Oui. Bien, il y a cette idée, hein, présente depuis longtemps, qu'Alexis le Trotteur a un physique exceptionnel, comme s'il avait une cuisse plus longue, là, similaire à celle d'un cheval, qui lui donnerait un avantage pour la course. On va l'entendre ici, justement, deux extraits. D'abord, Monseigneur Victor Tremblay, encore une fois, à notre radio en 1965, suivi de Jean-Claude Larouche lui-même. L'émission Présent dimanche, c'est en 1967.
Sa photographie, d'accord avec les témoignages de ceux qui l'ont bien connu, le montre de taille moyenne, plutôt trapu, brun, un peu chauve, d'aspect tout à fait normal. On a remarqué, ce qui ne paraissait pas du tout dans sa démarche, ni même quand il était assis, que son genou était plus bas que la normale, donnant plus de longueur à la partie supérieure de la jambe, comme chez le cheval de course.
Je pense que Alexis Lapointe, à mon humble avis, a couru le 1000, et ça s'est passé entre 1890 et 1900, autour de 3 minutes. Alors, pour vous donner une simple idée, le 1000 aujourd'hui se court en 3 minutes 51 secondes. D'autre part, ses os, que l'on a déterrés pour quand même prouver les avancées qu'on faisait, nous ont dit que ces os-là sont quand même phénoménaux. Ils dépassent toutes les normes que le Musée national du Canada possédait. Pour vous donner une idée, un os moyen mesure entre 109 et 119. L'os le plus fort qu'il possédait en ce moment mesure 138. Les os que nous avons trouvés mesurent 152.
L'émission présente dimanche 1967. Alors, tout ça nous apparaît complètement farfelu aujourd'hui, comme si on essayait d'y mettre une explication scientifique. On est un peu dans l'interprétation Alexis l'athlète maintenant, non?
Oui, c'est ça. Voilà, ça correspond bien parce qu'à l'époque, la course à pied, dans les années 70, ça commence à être populaire.
Oui.
Et Alexis devient un héros de légende, là, vraiment. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est certain que marcher, courir, danser, jouer de la musique à bouche, il est sûr qu'il est en forme, ça c'est certain.
Oui, sans doute.
Mais qui a besoin de prouver ça, hein, je veux dire? Son cœur était sûrement très bon, ses os étaient sûrement très solides. Moi, j'ai vu le squelette, ce qu'on a collé sur une planche qui était au musée, que Jean-Claude Larouche avait cédé, et je n'ai pas vu cette grosseur extraordinaire-là de genoux. Alors peut-être que la mesure a été faite, mais donc, oui, il est en forme, oui, il était... Mais on ne peut pas parler de... C'est difficile à vérifier tout ça. Là. Et je ne pense pas qu'on puisse faire d'affirmation. Et ça nous paraît bizarre aujourd'hui.
Oui.
Et par contre, c'est ça. Là, il y a eu des bandes dessinées, entre autres dans ce qu'on appelait Vidéopresse à l'époque. Il y a eu un ballet d'Dédé Toussaint. Il y a eu ce qui a créé le Cirque du Soleil, les Échassiers de la baie. Ils ont fait un spectacle à partir d'Alexis le Trotteur. Alors donc, le livre de Jean-Claude Larouche, qui a connu un bon succès, est devenue une occasion de faire rentrer à nouveau Alexis dans la légende. Il y a eu des chansons. Ça a été bon dans ce sens-là. La relance de l'idée d'Alexis comme athlète, c'est joyeux, c'est bien. Et là, il a pris toute une autre envergure.
Oui, ben, puis ça alimente le mythe, bien sûr. Mais bon, revenons sur le... Parce que c'est quand même curieux. Son squelette sera donc cédé au musée du Saguenay. Il sera exposé comme ça pendant près de 40 ans, avant que votre région le réclame. Non pas le squelette, mais qu'on puisse lui offrir une sépulture digne de ce nom.
Oui, on était comme si on s'est réveillé un jour dans une assemblée générale de la Cité d'Histoire et on a soumis la question et les gens se sont dit « Comment c'est possible? » On a comme... Alors, en 2003, on a fait une première demande en disant « Est-ce que ce serait possible de ramener les ossements? » Et de... Bon, évidemment, là, on a eu l'air aussi fou que le phénomène. Les gens disaient « Bien, il a souhaité vraiment exhumer, ça faisait déjà 40 ans, cette histoire. » Et est-ce qu'il expose vraiment? Plusieurs se pensaient même que ce n'était pas les vrais os.
Oui, ben oui.
On disait, c'est une reconstitution. Non, non. Il les a exhumés, il a sorti des ossements, et donc c'est exposé depuis près de 40 ans. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Et heureusement, on a eu un coup de pouce du journal Le Devoir, Jean-François Nadeau, qui a émis des questions éthiques autour de ça, qui étaient des bonnes questions, qui auraient dû être posées il y a longtemps. Et à partir de là, ben, on a finalement, même si on se faisait accuser, nous, de Charlevoix, de vouloir voler la légende touristique d'Alexis au Saguenay, et qu'il y avait des conseillers municipaux qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais finalement, ils ont cédé, et on a obtenu, donc en 2009, une seconde funéraille, en quelque sorte, d'Alexis, et il a été remis en terre à Clermont, et on lui a mis une pierre tombale. Donc, on imagine qu'il ne bougera pas.
Non, ben on imagine bien, on le souhaite en tout cas, hein? son lieu d'origine. En terminant, comment on le perçoit aujourd'hui? Parce que c'est comme s'il y avait eu plusieurs vies ou plusieurs légendes, hein, vous le disiez, donc un personnage un peu pittoresque au début, par la suite Alexis le Trotteur, l'athlète exceptionnel, avec une explication pseudo-scientifique. Aujourd'hui, on en est où? Comment on le perçoit?
Je pense qu'il y a eu l'athlète qui est important, et ensuite, ben maintenant, je pense que ce qui s'en vient de plus en plus, c'est la personne humble, ensuite en difficulté, pas beaucoup de qualités autres que physiques et qui dépasse sa condition. Et ça, je pense que le symbole est magnifique. Et il y a eu d'ailleurs un monument qui lui a été qui a été fait à Clermont pour lui rendre hommage. Et donc, on recrée en quelque sorte le personnage pour en faire quelqu'un qui s'est dit « Moi, j'ai tout ce qui me désavantage dans la vie et je réussis à devenir un mythe, une mythologie. Donc, je suis plus grand que le cheval. Je suis, et par ma volonté, j'impose mon image. » Et plus l'image avance, et plus on en parle, et plus elle reste, et plus elle est grande. Donc, Alexis a de l'avenir, d'après moi, parce qu'on va continuer d'en parler. Et dans la mesure où, disons, le peuple québécois, ce qu'on est comme... il devient comme un symbole d'une volonté d'affranchissement. Mmh. Alors donc, parce qu'on a, on a encore de l'avenir pour Alexis.
Mon invité, Serge Gauthier, président de la Société d'histoire de Charlevoix, également chercheur au Centre de recherche sur l'histoire et le patrimoine de Charlevoix. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Fort intéressant.
Merci.
Oui. Ici Maxime Gauthier. Là-dessus, merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Je vous souhaite une excellente soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada. Audio.